Et l'Église est un tissu de relations. C'est un tissu de relations. Et je suis dans ces relations-là. Et du fait même que je suis, j'ai augmenté ces relations. Si je disparaissais, il y aurait une relation en moi. Non, c'est sûr. Il n'y aurait pas que ça, mais il y aurait des relations en moi. Bon, il y a le point de vue de l'action et la passion. Je suis capable d'agir. Je suis capable de pâtir. Toujours, c'est réciproque. Le lieu, le temps, le situs. Le situs, c'est la partie dans le tout. Et puis l'habitus. Bon, je connais très bien toutes ces déterminations. Eh bien, je suis capable de dire tout de suite, hein, très très vite, une réflexion immédiate, de dire que l'être ne peut s'identifier à aucune de ces catégories. Et donc, quand je pose « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je suis dans une perspective transcatégorique. Et ça, c'est très intéressant à voir. Que tout de suite, l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» me situe dans une position transcatégoriale. Pourquoi ? Parce que si je dis que l'être, c'est la quantité, or la quantité n'est pas la qualité, donc si je dis que l'être, c'est la qualité sera du même être. Ça, c'est facile à comprendre. C'est irréductible, ces déterminations. Si je dis que l'être, c'est le sujet, la substance sujet. Si je dis que l'être, c'est la substance sujet, mais la qualité, la quantité, ce n'est pas le sujet, parce que c'est attribué au sujet. Donc la qualité et la quantité ne seraient plus de l'être. Or, je les ai constatés comme étant des modes particuliers de mon existence et de mon être. Si je dis que l'être, c'est l'action, si j'identifie l'être à l'action, alors la passion, c'est le contraire. La passion sera du même être. Alors, quand je pâtis, je sais très bien que j'existe. J'existe en pâtissant. C'est une manière particulière d'exister. J'existe en gémissant. Il y a des gens qui existent en gémissant. C'est vrai que tout le monde s'en aperçoit. C'est une manière d'exister. C'est d'exister en agissant et d'exister en gémissant. J'existe le lieu et le temps. Ce sont des catégories de l'être secondaires, c'est évident, mais ce sont quand même des catégories de l'être. Ce n'est pas négligeable. Exister dans tel lieu, exister à tel moment, ça fait partie de mon être. Vous voyez, le concret de mon être, hein, il implique le lieu et le temps. C'est bien évident. J'existe à la fin de ce 20e siècle. J'existe en tel endroit. Eh bien, le lieu, le temps caractérise ma manière d'exister. Le situs caractérise ma manière d'exister. Et puis, l'habitus à toutes les choses dont je me sers. Vous savez très bien, toutes les choses dont je me sers font partie de mon être. Quand on entre au noviciat, et qu'on avait déjà beaucoup, beaucoup de choses qu'on avait réalisées. On amène tout ça, on amène sa bibliothèque, hein. On amène sa bibliothèque, on amène tout le fourbi avec soi, on amène sa montre, on amène ses tas de choses qu'on a. Puis le père maître vient, non, tout ça, c'est pour le bien commun. Vous avez l'impression de vous dépouiller, vous dépouiller complètement, et puis quelquefois ça se fait difficilement. Vous arrivez avec une chevelure extraordinaire. Alors, vous vous dépouillez. Et c'est vrai, c'est dépouillé. C'est un dépouillement. Vous arrivez avec une barbe ancestrale. Vous dépouillez. C'est un dépouillement. Tout ça, c'est le genre de... C'est une manière d'exister. Alors, c'est le dépouillement. Vous voyez, ça touche à notre être. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça touche à notre être. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qui est nous. Et alors, toutes les catégories, ça, c'est quelque chose de très très important, parce que c'est la manière dont on peut déterminer ça. On peut très bien comprendre ça tout de suite, hein, philosophiquement. Quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être, je me mets au-delà des catégories. Et ça, c'est très intéressant. Je me mets au-delà des catégories, parce qu'aucune des catégories ne peut répondre. Je ne peux pas dire que l'être, c'est le temps. Je ne peux pas dire que l'être, c'est le lieu. L'être et le temps, l'être et le lieu. Vous voyez, je pourrais écrire 10 bouquins de métaphysique. 10 bouquins de métaphysique. Comme on a dit l'être et le temps, je pourrais mettre l'être et le lieu. L'être et le situs, l'être et l'habitus, l'être et la quantité, l'être et la qualité, l'être et la relation. Je vois que l'être est au-dessus. C'est important pour saisir l'importance de l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Ah, bon, une fois que j'ai compris ça, je me situe un tout petit peu dans une perspective qui est déjà, il faut arrêter, hein. Oui, ça c'est le temps. L'être est au-dessus. Mais...
janvier 1982, 6e conférence.
Il faut essayer de saisir comment l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, est au-delà de toutes les catégories. Dans les catégories, nous avions essayé de comprendre, les catégories, il y a deux aspects. Les catégories sont au niveau du langage et de l'attribution. Au niveau du langage et de l'attribution, nous avons toujours deux aspects très importants à comprendre, le sujet qui est le nom, et puis l'attribut. Ce qui est attribué. Pierre est un homme. Pierre, le nom, qui existe. L'homme comme tel, il est attribué. Donc ce n'est qu'une détermination. C'est la nature, évidemment, c'est une détermination essentielle et donc qui constitue l'être de Pierre. C'est évident. L'animal existe autrement que l'homme. Et donc, homme, qui est attribué essentiellement à Pierre, montre la manière dont Pierre existe. Il existe comme homme. Il n'existe pas comme un animal. Il existe comme homme. Il existe aussi comme un animal, mais comme un animal particulier qui est l'homme. Il existe d'une manière particulière par sa quantité. La quantité existe. Si j'ai un gros volume, évidemment, je demande de la place. Non? Donc, il existe dans sa quantité. Il existe par sa qualité. Il existe par sa relation. Il existe par son action. C'est donc la manière d'exister qui se fait voir à travers toutes les catégories. Toutes les catégories nous montrent notre manière d'exister. Nous existons de telle ou telle manière. Jusque dans la manière dont nous utilisons un outil. Si j'étais suffisamment intelligent, je pourrais voir uniquement une main utilisant un stylo, je pourrais dire, ah, c'est tel sujet. Je remonterai jusqu'à Pierre. Vous voyez, uniquement. Vous voyez, parce qu'au fond, notre manière d'utiliser une chose, voyez, ce qu'on dit au point de vue morphologique est encore beaucoup plus vrai au point de vue métaphysique. Au point de vue morphologique, si je prends un petit doigt de quelqu'un, je peux reconstruire tout, morphologiquement. Eh bien, au point de vue métaphysique, le dernier catégorie, l'habitus, je vois la manière, on pourrait très bien faire ça, ce serait très très beau au point de vue métaphysique, hein, son et lumière, vous voyez, c'est alors je mettrai uniquement une main se servant d'un stylo. Regardez bien attentivement, je verrai la manière dont il écrit. Après, chacun d'entre nous, nous écrivons d'une façon particulière. La manière dont il écrit. Pas le fruit de l'écriture, simplement la manière dont il écrit. L'écriture, c'est encore autre chose. L'heure. Vous savez, les notes que vous avez prises, ça, c'est autre chose. La manière dont il écrit. Point de vue philosophique, c'est ça qui m'intéresse dans l'habitus. C'est la manière dont il écrit. La manière dont il use un instrument. Et je verrai que cette manière correspond au stylo. C'est la manière d'exister. Voyez, les 10 manières d'exister, hein, nos 10 manières d'exister, c'est les 10 catégories, sont nos 10 manières d'exister. Nos 10 manières d'exister montrent la complexité de l'être concret qui existe. Et ces 10 manières d'exister me montrent les déterminations et les limites par lesquelles il existe. Il existe de telle manière. Et je ne peux en refuser aucune. Chacune particulière montre la manière dont il existe. Donc l'être est présent dans toutes les catégories. C'est évident. Il est présent dans toutes les catégories. Il est présent dans la dixième, il est présent dans le cyclus, il est présent dans le temps. Il est présent dans toutes. Tout existe. Mais l'être n'est aucune de ces catégories. L'être comme tel, dès que je le prends pour lui-même, il n'est pas identique à la quantité. Si j'identifie, alors là, ce serait très intéressant à faire, hein, c'est un petit problème très intéressant au point de vue philosophique. Si j'identifiais l'être à la quantité, tous les êtres seraient la quantité. C'est ce que Lénine dit. Lénine dit ça. Dit l'être est identique à la quantité. Donc l'être ne peut être qu'un être matériel. Il ne peut pas y avoir d'être spirituel, puisque l'être est quantifié. Vous voyez comme c'est important. Si j'identifie l'être et la quantité, il n'y a que des êtres quantifiés. Si j'identifie l'être et la qualité, la quantité, alors j'aurais envie de la considérer comme rien. Et je crois, alors ce serait, au point de vue histoire de la philosophie, ce serait extrêmement intéressant de voir comment chaque philosophie, en dehors de la métaphysique et de la philosophie première d'Aristote, chaque philosophie identifie l'être à une des catégories. Vous avez Lénine, ici. Qualité, je crois que c'est Heidegger. J'ai fait l'enquête, moi, parce que ça m'intéressait. Je crois qu'Heidegger ne dépasse pas la qualité. Quand il parle de l'être, en réalité, c'est la qualité. C'est très, très curieux. On a un parallélisme rigoureux à faire. Alors, c'est intéressant. Platon, est-ce que Platon dépasse la qualité? Je ne crois pas. L'être, c'est la qualité. La relation Hamelin. L'action, vous auriez Blondel. Blondel, c'est l'action. L'être, c'est l'action. L'être n'existe que dans l'action. Les stoïciens, tous les stoïciens, l'être n'existe que dans l'action. Vous n'existez qu'en fonction de l'action. Je juge votre être en fonction de l'action. Vous identifiez. La passion, ah, ça, c'est plus difficile de voir. Ah, mais oui, ça, l'être, l'homme est une passion inutile. Il voit le point de vue de la passion. Donc, on saisit le point de vue de la passion. Le point de vue du lieu. Qu'est-ce qui identifie l'être et le lieu? Qu'est-ce qui identifie l'être et le temps? Oui, je vous pose des questions, là. Qu'est-ce qui différencie? Et ainsi de suite. La phénoménologie identifie l'être avec l'habitus. L'homme est dans l'exercice. C'est l'exercice qui est l'être. C'est très lucide, c'est ça. Vous voyez, alors vous avez comme ça une table merveilleuse pour essayer de jauger les métaphysiques et les philosophies. Vous voyez jusqu'où elles ont pénétré. Il y a quelque chose de juste. C'est très vrai, parce que chacune de ces déterminations implique quelque chose. Et identifier l'être et le sujet. Identifier l'être et le sujet, Pierre. Alors ça, je crois que c'est le stoïcisme. Ici, c'est vraiment ça, encore plus que le point de vue d'action. C'est le sujet. C'est le sujet, comme ça. Identifier l'être et l'essence, l'homme. Alors ça, c'est Avicenne, c'est tout l'idéalisme. J'identifie l'être et l'essence. L'essence, le point de vue. Substance seconde, ou substance troisième. Bon, alors, ça, c'est très important de comprendre cela, parce que ça nous aide à comprendre comment. Il faut comprendre que l'être est présent dans toutes les catégories. L'être n'est pas absent des catégories, il est présent dans toutes les catégories. Et chacune des catégories me fait comprendre une des modalités de l'être. Me fait comprendre quelque chose de l'être. Ça c'est sûr, quelque chose de l'être. La quantité me fait connaître quelque chose de l'être. Puisque ça existe, la quantité. Donc ça me fait connaître quelque chose de l'être. Mais ça ne me fait pas connaître l'être. Ça me fait connaître tel être, mais pas l'être. Ça fait connaître tel être, telle modalité de l'être. La qualité me fait connaître telle modalité. Et je vois très bien, entre qualité et quantité, c'est irréductible. Donc, si l'être s'identifie à la qualité, ce ne serait plus la quantité. Et je considérerais la quantité comme négligeable. Ce que fait Heidegger. Heidegger considère que tous les étants, ça ne dit rien sur l'être. Donc, il identifie l'être et la qualité. Le signe de ça, c'est très très net. Ça nous fait comprendre tout de suite. Bon, alors, il faut comprendre que les catégories représente donc ces modalités particulières de l'être. Ces 10 modalités que je constate immédiatement. Parce que ça, je peux les constater immédiatement. Je les appréhende immédiatement. Quand je regarde ce que c'est que l'homme, ce que je suis, si je me mets à me décrire, c'est la description de l'homme, ça.
au niveau artistique. Hein. Je décris l'homme, je décris. Vous n'avez qu'à regarder, vous voyez, quand vous essayez de comprendre la description d'un homme. Vous pouvez décrire l'homme par sa quantité. C'est un petit tonneau. Vous pouvez décrire l'homme par sa qualité. Prodigieusement intelligent. Il a un cœur merveilleux, une générosité extraordinaire. Vous décrivez l'homme par ses relations. Vous décrivez l'homme, c'est de l'ordre de la description. Je suis immédiatement présent en face de cela. C'est pour ça que c'est très facile, ça. Une philosophie des catégories, c'est facile, hein. Mais c'est très important. C'est très important de comprendre que la métaphysique commence par les catégories, les 10 manières d'exister. Il y a 10 manières d'exister. Mais l'être n'est pas cela. Le dépassement. Alors, comment expliquer ce dépassement? Ce dépassement s'est fait grâce au jugement d'existence. C'est le jugement d'existence qui m'a permis de dépasser les catégories. Je ne m'en suis pas aperçu quand j'ai fait le jugement d'existence. Mais dès que je réfléchis sur le jugement d'existence, je m'aperçois que le jugement d'existence, d'où est sortie l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», me permet tout de suite d'être au-delà des catégories. Le jugement d'existence est présent dans les catégories. Mais, faisons attention, les catégories me permettent d'avoir vis-à-vis de toutes ces modalités de l'être une expérience. Et j'ai dit que le jugement d'existence est des trans-expériences. J'expérimente l'être, j'expérimente l'homme, j'expérimente l'autre, j'expérimente Pierre. Pierre existe. J'expérimente la quantité de quelqu'un. J'expérimente la qualité de quelqu'un, et ainsi de suite. Vous voyez, les 10 expériences que j'ai avec la réalité. Les 10 expériences. Le jugement d'existence est trans-expérience. Il est au-delà de toutes ces expériences. Et il est présent à ces 10 expériences. Oui.
Je ne comprends pas très bien comment le jugement d'existence, finalement, ce n'est pas la reconnaissance de la substance première.
Non, c'est plus. Puisque, alors, vous êtes très bien de poser le problème. Vous allez le traiter, mais c'est très bien de poser tout de suite le problème. Quand j'ai dit « Pierre est », je peux mettre l'accent sur Pierre, alors substance sujet, substance première. Je peux mettre l'accent sur est. Or, dans l'interrogation, je ne dis pas qu'est-ce que c'est que ceci. Je dis qu'est-ce que c'est que l'être. Oui, bien. Quand je dis Pierre est, c'est ceci est. Le taux d'équipe. Ce que je dis, c'est le ceci. Hein. Ceci est, c'est ce que j'indique du doigt. Ceci est, le taux d'équipe. Alors, ceci est, je mets ou l'accent sur le ceci, ou l'accent sur est. Je peux faire les deux. Quand je dis ceci est, il y a une question d'accent. Et une question d'accent, c'est tout simplement parce que je pense en disant ceci est. Si je mets l'accent sur le ceci, je mets donc l'accent sur le sujet existant. Je mets donc l'accent sur l'étant, comme dirait Heidegger. Le ceci est. Je peux mettre l'accent sur est. Et je mets l'accent sur est quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Vous voyez, je mets l'accent sur est quand je dis ceci est, c'est-à-dire je suis, la vache existe. Le chien existe, la table existe. Je vois que le ceci, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est. J'ai donc le dépassement du ceci, c'est-à-dire du sujet, parce que le ceci, c'est le sujet, c'est la substance première. La substance première, je n'y arrête pas. Pourquoi ? Parce que la substance première, je resterai dans l'ordre des catégories. La substance première est catégoriale. Elle est transcatégoriale en ce sens qu'elle n'est pas attribuée, mais elle est sujet de tous les attributs. Tout est attribué à la substance première. Oui. Donc, si j'insistais sur le ceci, je resterai dans l'ordre des catégories. Si j'insiste sur est, en comprenant que c'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est que l'être, à ce moment-là, je me mets au-delà des catégories. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est là que je me pose la question. Et c'est là la question. Et c'est ça qui est intéressant, vous voyez. Ça qui est intéressant, c'est de dire, est-ce qu'au-delà des catégories, il y a quelque chose d'autre?
L'amour
est une action, une passion. Quand vous aimez, vous êtes actif. Et quand vous recevez l'amour, vous êtes passif.
Est-ce que l'amour aime ceci?
Je me place au-dessus de l'amour, vous voyez. Mais l'amour existe, je crois, l'amour existe. L'amour est une manière d'exister. J'aime, mais je ne suis pas l'amour. En vous, l'amour n'est pas votre être. Oui.
J'aime quelqu'un.
Vous aimez quelqu'un. Oui.
Est-ce que, justement,
l'amour est-il ce qu'il y a d'ultime dans la recherche philosophique, ou y a-t-il quelque chose qui est plus radical que l'amour, qui me permettra de mieux comprendre ce que c'est que l'amour? Mais je ne peux pas dire qu'en moi, l'amour c'est mon être. C'est du reste là la souffrance, hein. Parce qu'on voudrait, quand on aime quelqu'un, on voudrait l'aimer dans tout ce qu'on est. Seul l'amour divin, comme dit saint Jean de la Croix, peut s'emparer de tout mon corps et de tous mes orteils et de tous mes doigts, et peut s'emparer de tout moi-même. Seul l'amour divin peut faire ça. Parce que l'amour divin, il est divin. Donc il est au-delà de moi. Mais mon amour humain, il provient de moi. Donc il est quelque chose qui provient de moi. Vous voyez ? Je pourrais me poser la question, ce serait intéressant, votre question est très intéressante, est-ce qu'au fond, je ne devrais pas faire, c'est ce que Ricoeur a posé la question, on devrait faire une pneumatologie. Une pneumatologie, c'est-à-dire pneuma, le point de vue du souffle, c'est le point de vue de l'amour, donc on devrait faire une pneumatologie. À la place de faire une métaphysique, on devrait faire une pneumatologie. Eh bien, je dis non. Nous devons étudier ce que c'est que l'amour. Nous étudions l'amour au niveau éthique, dans l'amour d'amitié. Mais l'homme aime. Et je sais que l'homme ne s'identifie pas à son amour. L'amour, c'est mon action et c'est ma passion. Mais c'est moi qui aime. Et moi, c'est plus radical que mon amour, au point de vue humain, hein, pas au point de vue divin. Au point de vue divin, je suis complètement dépassé. Alors, au point de vue divin, j'aurais tout à fait le droit de dire qu'au point de vue divin, tout est dans la charité, mais parce que la charité est divine. Alors, c'est la manière dont Dieu me reprend totalement à lui, et je suis entièrement pris par cet amour divin. Vous voyez, ça, c'est l'amour divin. Ça m'échappe, c'est dans la foi. Au point de vue amour humain, j'ai l'expérience d'un amour humain. J'ai l'expérience d'un amour humain. Et je sais très bien que je ne suis pas identique à mon amour. Je le voudrais bien. Il y a quelque chose en moi qui est radical et qui n'arrive pas à être amour. Vous voyez, cet égoïsme métaphysique. Hein.
Oui. Objectivement, pas subjectivement.
Oui.
L'amour,
l'amour
que... Dans le genre, ceci est.
Oui.
Connaître, est-ce qu'il s'attache au ceci, ou est-ce qu'il s'attache à l'être du ceci?
L'amour est du côté du verbe, et pas du ceci. Parce que le ceci n'est pas amour. Donc il est du côté du verbe, il est du côté de l'action. Et c'est le verbe à l'état pur. Et j'aime. Et le langage même exprime j'aime. C'est une action. Aimer, c'est une action. J'aime. C'est donc du côté du verbe et pas du côté du nom. Le ceci n'est pas amour. C'est trop commode de dire. Le ceci est un nom. Et l'amour n'a pas de nom. L'amour est une passion. L'amour est une action. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, tu m'aimes, je suis présent, c'est suffisant. Je suis amour. Dieu seul peut dire ça. Dieu seul est amour. Et le nom de Dieu est amour pour Dieu seul. Et c'est pour ça que la présence de Dieu suffit à mon amour. Parce que je sais qu'il est d'amour. Tandis que quelqu'un qui n'est pas Dieu, qui dit « je suis présent, c'est suffisant pour toi ». Non, parce que tu n'es pas amour. Et donc je veux que tu m'aimes. Et tu ne me seras présent que si tu m'aimes. Par le point de vue de l'action. Oui. C'est très important ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de métaphysique de l'amour. Il y a une métaphysique de l'être, mais pas une métaphysique de l'amour. J'aurais vu après ça, mais ça fait rien, ça rejoint. J'aurais vu après que, de fait, on ne peut pas faire une métaphysique de l'amour. On fait une métaphysique de l'être. On fait une métaphysique de l'être qui va nous éclairer, justement, que l'amour n'est pas notre être. Et ça, c'est très important. Parce que la plupart des désastres qui existent dans les mariages et dans l'amour, c'est qu'on confond l'amour et l'être. Alors, parce qu'on confond l'amour et l'être, on manque de réalité. Et quand on aime quelqu'un, hein, quand on aime quelqu'un, le premier amour, je prends le premier amour, hein, le premier amour qui est un peu, toujours un peu l'ivresse. Donc, le premier amour qui est fervent, on croit à ce moment-là que tout est arrivé parce qu'on aime. Que tout est changé. Tout est changé. Pour l'amour humain, hein, que tout est changé parce qu'on aime. On est euphorique. On est dans cette espèce de perspective où, et c'est vrai, tout est changé, je suis tout à fait d'accord, tout est changé. Mais il y a le lendemain. Vous voyez ? C'est l'exemple que prend Adama quand il dit que c'est l'eau qui boue. Mais quand elle ne boue plus, c'est toujours de l'eau. Vous voyez ? Et quand j'aime, je suis totalement transformé. Mais je n'aime pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis bien obligé d'aimer et puis de travailler. Je suis bien obligé d'aimer et de me reposer. Je suis bien obligé d'aimer et de manger. Je n'aime pas tout le temps. L'amour qui devrait être tout le temps, qui devrait être éternel, l'amour, il demande d'être éternel. Donc il demande de ne pas changer. Il demande d'être substantiel. Et il n'est pas substantiel en moi. Et c'est pour ça que je fais la métaphysique de l'être et non pas la métaphysique de l'amour. Vous voyez ? Alors, nous allons. C'est très important de comprendre ça. C'est très très important parce que, vous voyez, c'est au fond la différence entre le réalisme de saint Thomas et Augustin. Saint Augustin, le néoplatonisme. Le néoplatonisme aura la tendance de faire une métaphysique de l'amour. Parce qu'il manque de réalisme. Alors, il ne va pas jusqu'au bout. Si j'étais amour, dans tout mon être, je ferais une métaphysique de l'amour. Il y a Dieu qui pourrait faire une métaphysique de l'amour, mais il n'en a pas besoin. Parce que si on est amour, on n'a pas besoin de métaphysique de l'amour. Mais si on n'est pas amour, on a besoin d'une métaphysique de l'être pour comprendre ce que c'est que l'amour. Seule une métaphysique de l'être pourra vous dire ce que c'est que l'amour. Aucune autre métaphysique ne pourra vous dire ce que c'est que l'amour. Donc en définitive, hein, la métaphysique de l'être, c'est pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'amour. Ça c'est sûr. En dernier lieu, c'est bien évident, je suis tout à fait d'accord avec vous. En dernier lieu, mais pas tout de suite. Je ne fais pas une métaphysique de l'amour. Pourquoi je ne fais pas une métaphysique de l'amour ? Parce que mon être ne s'identifie pas avec l'amour. Et l'exemple très simple, c'est que mon amour, qui demandait d'être éternel, il est cependant, quant à son exercice, il est dans le temps. Quant à son exercice. Il est dans un lieu. Tu te rappelles, c'est à cet endroit-là qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est aimés. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, le lieu.
Oui, on peut dire.
Et pourtant, on se rappelle que c'est à cet endroit-là qu'on s'est rencontrés là. C'était à Florence, tu te rappelles. C'était merveilleux, il y avait un ciel extraordinaire, tout le monde là. Le lieu, le temps, le situs. On rappelle tout ça, vous voyez, c'est très curieux ces choses-là. Ça montre bien que, de fait, notre amour est incarné, il est lié au temps, au lieu, au situs, au situs. C'est extraordinaire ça. Et il n'est pas mon être. S'il était mon être, alors à ce moment-là, il serait que l'amour. Je n'aurais plus besoin de dire, tu sais, je t'ai rencontré à tel endroit. On s'aime. Et quand on s'aime, au moment où on s'aime, on n'a plus besoin. On est au-delà des catégories. Je suis tout à fait d'accord. L'amour est au-delà des catégories. Mais l'amour n'est pas mon être. Là, il est retombé. C'est très curieux, ces choses-là. Alors, j'essaie de comprendre, vous voyez, cette chose que vous touchez du doigt, là, c'est très vrai, que l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» me met au-delà des catégories. Alors, évidemment, le danger, c'est de dire « alors, qu'est-ce que c'est ?» C'est ça, c'est ça. Je touche quelque chose de très, très mystérieux. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Moi, vous arrivez, moi, à le toucher. Que c'est mystérieux, c'est déjà beaucoup. Vous voyez que c'est au-delà des catégories, que je ne peux pas répondre à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» par une catégorie. Non. Ce qui montre que mon langage, qui commande les catégories, n'est pas métaphysique. Voilà, métalangage, comme on dit aujourd'hui. Ou exprimons par une métaphysique, qu'est-ce que c'est que l'être ? Il y a un métalangage, je suis au-dessus. Mais c'est très important de comprendre, vous voyez, que quand je dis « ceci est dans le jugement d'existence », le jugement d'existence met en pleine lumière et on parle ceci. Autrement, ce ne serait plus le jugement d'existence. Ce serait tout simplement affirmer que la vache existe. Affirmer que la vache existe, ce n'est plus le jugement d'existence. C'est l'étant. C'est affirmer que la vache existe, c'est vrai, une réalité qui existe. Il y a une réalité qui existe. Mais ce n'est plus le jugement d'existence. Le jugement d'existence, ceci est. Je mets tout l'accent sur elle. D'où l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Tandis que si je mets l'accent sur le ceci, je retombe dans les catégories. Alors le jugement d'existence, vous voyez, est là, qui fait le passage entre les deux. Ça fait très très nettement le passage entre les deux. Entre le passage vers l'être et le point de vue des catégories. Les catégories qui sont ce poids de détermination, c'est un poids de détermination les catégories. C'est du plomb les catégories. Alors c'est du poids. Tandis qu'est-ce que c'est que l'être ? Ah, alors là, je suis au-dessus. Mais c'est très difficile d'arriver à ce dépassement sans tomber dans l'infini. Il faut à la fois dépasser sans tomber dans l'infini. Autrement, alors je ne vois plus. Qu'un horizon bien dangereux, oui, très très bien dangereux. Bon, alors, je reviens encore une fois pour les catégories. Je dis, les catégories, c'est ce qui est le plus comme naturel à ma manière de connaître. Et donc, ça correspond aux grandes déterminations de l'être. Je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que la quantité ? Qu'est-ce que c'est que la qualité ? Qu'est-ce que c'est la relation ? Alors là, j'ai les grandes interrogations du TST. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce ? Qu'est-ce la quantité ? Quand je me pose la question « qu'est-ce la quantité ?», je ne réponds pas « la quantité, c'est l'être ». Non. Pourquoi la quantité, c'est pas l'être ? Je réponds tout de suite parce que la quantité n'est pas la qualité, que la qualité est aussi être. C'est une grosse réponse. Bonne réponse, hein, à Dominique, très très simple, si me permettons. Mais je peux aller plus loin. Quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que la quantité ? Je suis capable de saisir que la quantité a sa signification propre. C'est vrai ? La quantité a une signification propre. La quantité a donc une forme propre, qui n'est pas celle de la quantité. Et d'une manière plus précise, je dirais que la quantité a son totipenheimat. Elle a sa signification propre, c'est-à-dire qu'elle a sa détermination propre. Son totipenheimat. Il y a un totipenheimat pour la quantité, pour la qualité, pour la relation. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que la qualité, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la relation, c'est la même chose. Vous voyez, il y a une détermination dans l'ordre de l'être à l'égard de chacune des catégories. Il y a un totipenheimat de chacune des catégories que je peux saisir assez facilement. Vous voyez, la substance a une certaine détermination. On pourra dire dans un langage un peu moins précis que la quantité a son essence. Alors, pour mettre entre parenthèses, et je dis ça, c'est parce que, facilement, la qualité a son essence. j'aime mieux dire sa signification. Il y a la signification de la quantité, il y a la signification de la qualité, il y a la signification de la relation, et ainsi de suite. Et cette signification se fonde sur ce qu'est la quantité, ce qu'est la qualité, sont aussi indéniables. Et dans cette qualité qui a sa signification, cette signification me permet de comprendre que la quantité, je peux la regarder de deux manières. En tant qu'elle existe relativement à Pierre, en tant que je la regarde en elle-même, c'est-à-dire sa propre forme. Au fond, je peux faire ça pour toutes les catégories. Toutes les catégories ont leur propre signification et toutes les catégories existent en fonction du sujet dans lequel ils se trouvent. La quantité n'existe qu'à partir d'une réalité qui existe. C'est la quantité de la montagne, c'est la quantité de l'homme, c'est la quantité de la vache, c'est la quantité de cette pierre. Oui. Je peux abstraire la quantité, mais la quantité n'existe qu'en fonction d'un sujet. Je peux faire le même raisonnement pour la qualité. Je peux dire qu'il y a une qualité qui a sa propre signification. Il y a des qualités qui ont leur propre signification. Il y a des qualités sensibles. Il y a des qualités intérieures, qui sont l'intelligence et la volonté, qui sont les capacités que j'ai de réaliser telle ou telle chose. Il y a la qualité de la figura. Donc il y a toute une série de qualités. Ces qualités n'existent qu'en fonction d'un sujet. C'est Pierre qui est intelligent. À ce moment-là, je regarde l'intelligence de Pierre. C'est Pierre qui existe. Donc je vois qu'à partir de chacune des catégories, je peux faire cette distinction entre ce qu'est la signification de la quantité et de la qualité de la relation, de l'action et de la passion, et ainsi de suite. Et puis, leur manière d'exister. Elle existe en Pierre. C'est Pierre qui donne la signification dernière de toutes ces catégories, parce qu'il est le sujet existant. Et ces catégories n'existent qu'en fonction de Pierre. Donc, je vois qu'au point de vue de l'être, hein, c'est ça qui m'intéresse ici, je vois qu'au point de vue de l'être, toutes les catégories se ramènent au sujet. Toutes les catégories se ramènent au sujet, puisque toutes les catégories n'existent qu'en fonction du sujet. Elles ont chacune leur signification propre, mais elles n'existent qu'en fonction du sujet. Elles ont chacune leur toti eneinai, leur quidité, leur détermination, leur essence, mais elles n'existent qu'en fonction du sujet. Or, l'être, c'est ce qui est. Donc, le grand problème, c'est de voir que l'être ne s'identifie pas au sujet, c'est-à-dire à la substance première, et que l'être est autre chose que la substance première. Vous voyez, je reviens toujours à ce sujet, mais ici je le caractérise davantage en montrant que c'est la substance première qui est ce vers quoi toutes les catégories convergent. Toutes les catégories sont relatives à la substance première. Et c'est donc par rapport à la substance première que va se poser le problème le plus fondamental. Quand je me pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», de montrer que l'être est au-delà de la substance première. Et ça, très très facilement, nous ramenons la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» à la substance première. C'est ce qu'a fait la scolastique. Et nous verrons ça, parce que c'est intéressant de voir ça. La scolastique, de fait, a ramené l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» à la substance première, en raison, je crois, d'un certain stoïcisme à l'intérieur de la théologie. Alors on a ramené la substance première, on a ramené l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» à la substance première. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Alors c'est là où on va voir comment l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» a sa signification propre, qui n'est ni celle de la substance première, ni celle des autres catégories. Et cependant, elle l'implique, mais elle est au-delà. Ça, c'est pas commode. Hein. C'est là où au point de vue, le point de vue de l'intelligence entre dans le domaine métaphysique. Tant que je suis dans les catégories, je crois que là, nous en sommes toujours hein, sur le plancher des vaches, ça va très très bien. On arrive très bien à comprendre. Les catégories, on les touche, les catégories. Donc, tout le monde comprend les 10 catégories. Ce qui est difficile, c'est quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Par le jugement d'existence, je ne peux pas le poser en fonction des catégories. Je ne peux pas poser. En fonction des catégories, je demeure dans le ceci. Je demeure dans toutes les différentes attributions à l'égard du ceci. Ce n'est que le jugement d'existence qui me permet d'effacer ça. Autrement, je reste lié aux catégories. C'est pour ça, encore une fois, c'est très très net que la scolastique décadente est revenue aux catégories et n'a pas dépassé les catégories. Et quand vous regardez tous les manuels d'itonistes, vous voyez que toute la métaphysique, c'est la métaphysique des catégories. Et donc, ce n'est pas la métaphysique. Parce que la métaphysique commence avec le jugement d'existence. Quand je me pose la question, ceci est, alors qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, donc, je reviens à la question, qu'est-ce que c'est que l'être par rapport à la substance première ? Parce que c'est évident que c'est la tentation, c'est de dire toutes les catégories existent en fonction de point. C'est très bien. Donc, le sujet, Pierre, est cause de l'être de toutes les catégories. Donc il est source de l'être, donc il est l'être en premier lieu. Enfin, instinctivement, je fais ça. Ça, c'est le positivisme métaphysique. C'est le positivisme à l'intérieur de la métaphysique. C'est de ramener tout au sujet. Et je vous dis, c'est très très tentant. Hein. Et la scolastique l'a fait très très vite, à partir de Suarez, on a fait ça. Très très vite. Et depuis Suarez, on en est resté là. Même le bon père Garrigou dit ça. Il n'a pas saisi que, de fait, le jugement d'existence m'obligeait d'aller au-delà du sujet. Parce que le sujet, le todeti, Pierre, c'est le ceci. Qu'il soit la vache ou qu'il soit Pierre, au point de vue métaphysique, ça revient au même. Hein. Vous voyez, c'est là l'humilité métaphysique. Hein. C'est là, parce que s'agit, que vous dites, la vache existe. Je l'ai vu ce matin dans le prêtre. Pierre existe, il est là en face de moi. Au point de vue métaphysique, Pierre existe ou la vache existe, métaphysiquement, ça me fait le dépassement. Après, je comprendrais que c'est très important de revenir à Pierre, hein, parce que c'est quand même Pierre a une qualité d'exister qui n'est pas celle de la vache. C'est bien évident. Il a une qualité d'exister qui n'est pas celle de la vache. Mais au point de vue de l'interrogation, qu'est-ce que c'est connaître, ça revient au même. C'est le souci que j'abandonne. C'est très curieux, ça, vous voyez. C'est très curieux et c'est très intéressant de saisir ça. Je ne fais pas de la métaphysique de l'homme. Je fais la métaphysique de l'être. Comme je ne fais pas la métaphysique de l'amour. Je fais la métaphysique de l'être. Parce que c'est fondamental donné dans le jugement d'existence aussi. Et j'insiste un peu parce que nous avons de la peine, hein, nous avons de la peine à sortir de là, ça c'est possible. Nous avons ces ornières, les catégories peuvent être des ornières, hein, et m'empêcher d'aller plus loin. Alors, elles sont très très utiles, il ne faut jamais quitter les catégories. C'est très très important pour rester dans le réalisme de la réalité, et pour comprendre la situation propre de Pierre. Parce que Pierre seul a ce dixième, la dixième catégorie qui est la. La vache ne l'a pas. Supériorité de Pierre, il a l'air. La vache a toutes les autres catégories. La vache subsiste. Elle a sa substance. C'est vrai. Elle a sa nature particulière. Elle est vache. Elle n'est pas le singe. Elle n'est pas le chien. Elle a sa catégorie. Elle a sa quantité. Les uns l'emportent sur l'autre. Elle a ses qualités. Ça, c'est différent. Elle a ses relations. Elle a son action, elle a sa passion, elle a son lieu, son temps, son soutus. Pas d'habitus. La seule petite catégorie qui est très intéressante, la seule catégorie qui est propre à l'homme. C'est pour ça que dans la phénoménologie, cette catégorie qui est propre à l'homme devient la première catégorie et devient la catégorie centrale. C'est très très intéressant parce que la phénoménologie commence par le point de vue de l'homme. Alors, si je commence par le point de vue de l'homme sans regarder le point de vue objectif,
C'est cela qui est le plus important. C'est cet exercice particulier. Donc, je reviens à la question. Quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Je dis, l'être ne peut pas être le ceci. Pourquoi? Parce que justement, le ceci, c'est ce qui reçoit l'être. C'est bien évident. Ceci est. Ça, vous allez dire, c'est le langage. Non, non, c'est pas le langage. Pierre existe, la vache existe. Donc l'existence n'est pas propre à Pierre, puisque la vache aussi existe. Or, c'est l'exister que je cherche. Qu'est-ce que c'est que l'exister? Qu'est-ce que c'est qu'être? La vache existe, elle est, Pierre est. Donc je ne peux pas caractériser l'être par Pierre, puisque autrement je pourrais vous dire que la vache existe. Alors je dirais que Pierre, du fait même qu'il existe, il néantise la vache. Puisqu'il existe, qu'il identifie l'être à lui, il néantise la vache. Donc du fait que Pierre existe, la vache n'existe pas. C'est pas du tout ce qui se passe. Ça se passe dans la tête de Sartre, mais c'est pas dans ma tête. Dans la tête de Sartre, c'est très vrai. Pierre existe, donc il néantise la vache. Pas du tout. J'existe et la vache existe. Et je suis en relation réelle avec la vache. La bonne vache. Je suis en relation réelle. Donc j'ai une relation, et pas seulement la vache, le chien, toutes les autres choses, ça existe. Donc je ne peux pas identifier être et ceci. Alors qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, je reviens à la question. Je vois que je suis obligé de dépasser toutes les catégories pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être. Ah, vous voyez bien, hein? J'espère. C'est un petit exercice métaphysique, très bon. Ça purifie l'esprit, ça, vous savez. Ça purifie l'esprit, ça vous oblige de dégager tout ce que vous avez encombré, puis de dire, qu'est-ce que c'est que l'être? Vous voyez, c'est pour ça que l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, est si fondamentale et si radicale, et qu'elle met votre intelligence à l'état de nudité. Elle met votre intelligence en état de pauvreté et de fragilité quand vous posez qu'est-ce que c'est que l'être. Parce que vous ne savez pas répondre. C'est vrai, vous ne savez pas répondre, vous n'allez répondre pas à les catégories, ça c'est spontané. Vous n'allez répondre pas au sujet, vous ne savez pas répondre. Alors, il faut essayer de répondre.